Bienvenue sur NDChaîne, Radio Galère 88.4. Des raisons d'être en colère encore et encore. Vous êtes sur NDChaîne et on va vous proposer une petite émission avec un peu d'infos, un peu de trucs et astuces et bricolage. Voilà, voilà. Et commencer du coup par parler d'une journée d'infos et de solidarité contre les violences policières qui va avoir lieu à Marseille le 4 décembre. Et donc vous proposer de lire, je vais vous lire le texte de présentation qui a été écrit par un collectif qui s'appelle La Classe Dangereuse. En 2005, à Clichy-sous-Bois, deux adolescents trouvaient la mort pour avoir pris la fuite, effrayés par la police. S'en sont suivis, dans les quartiers populaires, plusieurs semaines de révolte, que l'on évoque souvent comme les émeutes de 2005. Ces révoltes, aussi spontanées fussent-elles, étaient résolument politiques. Elles furent un acte de refus et d'accusation qui pointait du doigt l'occupation policière dans les quartiers populaires. Les agissements d'une police et d'un État raciste et anti-pauvre étaient alors mis en lumière par l'embrasement des banlieues. 10 ans après, nous ne pouvons que reconnaître le caractère historique de ces révoltes. D'autant plus lorsqu'on dresse le constat qu'en réalité, rien n'a vraiment changé. La police élit toujours domicile dans les quartiers populaires avec toujours plus de justifications officielles. Les morts qu'elle perpétue s'enchaînent en silence et les appareils policiers et judiciaires s'acharnent sans vergogne sur les familles de victimes pour les décourager. Les politiques sécuritaires se durcissent et réduisent le champ de toutes les libertés. Et le citoyen lambda est sommé de ne rien voir et de se taire. Nous, la classe dangereuse, sommes un collectif d'étudiants basé sur la faculté Saint-Charles, à Marseille, et dont les consciences politiques ont été marquées par certains aspects de ces réalités. À l'occasion des 10 ans des révoltes des quartiers populaires, nous vous invitons le vendredi 4 décembre à participer à une journée d'information et de mobilisation contre l'appareil d'État qui maintient en place l'impunité policière. Des intervenants nous aideront à faire le point sur les méthodes d'organisation mises en place pour lutter contre lui. Alors, le déroulé de la journée, il y a un rendez-vous à partir de 9h du matin à la fac Saint-Charles où une table de presse permettra d'échanger infos et opinions sur les violences policières et leur impunité. S'en suivra une marche silencieuse dans l'université. À midi, un rassemblement sonore est prévu avec des prises de parole. Et à 14h, des projections vidéo. Pour conclure, à l'Agora, au centre social de la Busserine, à 18h, une discussion et une rencontre entre les familles, les collectifs et les participants de la journée auront lieu. L'objectif de cette rencontre est de créer à terme un réseau d'entraide locale pouvant faire poids et vers lequel peuvent se tourner les victimes de violences policières. Ne laissons plus nos vies entre leurs mains. Voilà, donc c'est la fin de cet appel du collectif La Classe Dangereuse et donc qui propose cette invitation à discuter le vendredi 4 décembre. Et vous trouvez bien sûr toutes ces informations sur le site 2000 Babord et sur celui de Mia, je pense aussi.
Et voilà, et du coup, on ne va pas manquer effectivement de vous appeler à participer à cette initiative et de rappeler que donc, la police est intrinsèquement violente et qu'elle commet énormément de violences sur lesquelles, évidemment, la justice n'a de cesse de fermer les yeux. En témoignent trois histoires dont les rendus judiciaires ont été donnés très récemment, et ce depuis que l'état d'urgence a été décrété. Alors dans ces trois histoires, il y a l'histoire de Mamadou Marega, qui en 2013 a été traîné dans un ascenseur par des policiers. Il était pieds et mains liés et il n'en est jamais ressorti vivant, il en est ressorti mort. Alors 2 ans après cette histoire, donc, la justice vient de rendre son verdict et c'est donc un non-lieu. Il y a aussi l'histoire d'Ossine Bourras, qui en septembre 2014 a été tuée par balle dans un véhicule de police, alors qu'il était menotté pendant son transfert, puisqu'il était donc prisonnier. Là encore, la justice vient de rendre un non-lieu. Et enfin, l'histoire de Amadou Koumé, qui est un peu plus récente, qui lui a été assassiné dans un commissariat, c'était en mars 2015. Mais Amadou avait disparu pendant un mois, et avant que l'histoire ne sorte au grand jour, et donc qu'on apprenne sa mort. Donc en avril 2015, et la justice vient une nouvelle fois de rendre un non-lieu. Voilà, donc on ne cessera de le dire et de le répéter sur cette antenne. La police assassine, la justice acquitte. Et sur ce, on va enchaîner avec un montage de NDChen qu'on vous a déjà passé, qui est à propos d'un livre de Mathieu Rigouste qui s'appelle « La domination policière ». Donc voilà, un lecteur de ce livre nous fait part un peu du contenu de ce livre qui rappelle donc l'histoire de la police et son rôle.
Il reconnaît les connards à leur uniforme.
Sierra, Tango, Oscar, Mike, Yankee. Comme le Predator, je ne sors que la nuit.
Cette fois encore, la police est l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne pioche. Ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. Préparer l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés. Les lascars chirés. Moi j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ennemi. Antipathique, sadique, allergique, conflict. Même dans la foule, je porte la cagoule. Les plus jeunes m'écoutent dans l'école de la rue. Je suis leur prof, premier cours. Lancer le cocktail molotov, sans faire de propagande. Abdoulaye nous demande la plus belle des offrandes. Le message est passé. Je dois sacrifier un poulet.
Pas de bête sans que Babylone pète. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de bête sans que le poulet repose en bête. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de bête sans que Babylone pète. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de bête sans que le poulet repose en bête. Est-ce que tu le sais?
Dans cette masse qui s'agite, je vis et ça m'excite. Tout crame autour de moi. Les pompiers ne viennent pas. Les gamins veulent en être en maître. Au CRS chou qui se lance à l'assaut. Matraque à la main dans les quarts du vin. Des fourgons blindés, des flics surarmés. Mon putain de quartier ressemble au territoire occupé. J'engraine, j'engraine à la mauvaise conduite. Certains ne m'écoutent pas et tentent la fuite. Y'en a qui m'obligent. Boum, les gars veulent le prestige. Comme le font les médias, le peuple tu mets pas. Le monde est à moi, je suis dans les Montana. J'ai devant moi tous les flics. Ce soir j'ai pas d'usine. Ce soir j'ai pas de fusil. Et monsieur Stone me laisse la place à Bugsy. Avant de laisser faire mes pulsions meurtrières, j'adresse au tout puissant mes dernières prières.
Mais demande à Dieu de rester vivant.
Et j'appelle le diable pour faire couler le sang.
Pas de bête sans que Babylone paye. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de bête sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Choisis.
C'est un bouquin qui part d'un constat de ce qui est appelé les violences policières, en gros de ce qu'on peut aussi appeler les bavures, et lui en fait son truc c'est de dire que ces bavures c'en est pas, que cette violence policière elle est organisée, elle est gérée, elle est influencée par plein de personnes, quoi que ce soit au niveau de l'État, des industriels. Et que en fait c'est pas juste des méchants flics qui pètent les plombs une fois et qui tirent sur quelqu'un et qui le tue. C'est pas du tout un hasard et que c'est en fait une violence qui est rationalisée, quoi. Qu'il y a pas de police non violente, mais que c'est pas non plus un bloc, quoi, que la police ça a pas toujours été la même, quoi, et qu'elle est en train de se restructurer, que la police elle a une histoire. Et lui il parle plus particulièrement de la police, ce qu'il appelle de la ségrégation néocoloniale, quoi, de la police qui est surtout appliquée aux immigrés et aux fils d'immigrés, quoi, aux non-blancs pauvres. Et il voit en fait d'où vient cette police et pourquoi est-ce qu'elle tue, elle tue autant, et à quoi est-ce qu'elle sert, quoi, à qui elle sert. Donc en fait, ouais, l'auteur là, Mathieu Ribouze, donc c'est un mec qui est assez jeune, qui a une trentaine d'années, qui lui est passé par des études de sociologie. Et donc utilise toutes les méthodes de la sociologie, quoi, pour étudier les violences policières et tout le système qu'il y a derrière. Mais c'est quand même un mec qui justement a tendance à vachement critiquer la sociologie académique universitaire parce qu'il sait aussi que cette sociologie là, quoi, académique, elle sert en très très grande partie au contrôle, quoi. C'est-à-dire que à la fois des fois déjà pour diffuser des idées fausses, quoi. Ouais, bah par exemple c'est que la plupart des études qui sont faites sur les violences policières apparemment elles sont centrées sur toutes les initiatives de la police leur permettant de réduire leur propre violence. Et lui, il explique bien que toutes ces études, elles passent toujours à côté de toutes les brimades quotidiennes, les humiliations, les techniques d'étranglement, les fouilles au corps, les contrôles d'identité, les perquisitions, tous ces trucs qui font la vie quotidienne des gens. Tout ce qu'on disait, la police de proximité, par exemple, qui a été inventée par la gauche, et quand la droite dit « ouais, c'est une police qui va jouer au football avec les gamins », je veux dire, c'est juste du délire, quoi. C'est une police d'occupation qui est, elle aussi, vraiment héritée d'une... De stratégie de contre-insurrection qui était utilisée dans le colonie, quoi. Le modèle, c'est un peu normalement que tu as une police d'occupation qui quadrille le terrain et qui empêche les gens de se mobiliser, qui essaye de paralyser la vie sociale. Donc cette fameuse police de proximité, quoi, qui est là pour occuper le terrain. Et ensuite, tu as des brigades de choc, quoi. Toutes les BAC, RAID, GIGN, BSN, RAID, tous ces trucs-là. Et les études académiques, elles sont complètement... qu'elles servent beaucoup plus l'État et ces mêmes personnes que lui, il essaye malgré tout d'en faire une arme, quoi, pour comprendre et pour pouvoir mieux répondre à toutes ces agressions qui leur sont faites, quoi. Lui, il explique vraiment dans le bouquin que cette violence policière, en fait, ça peut paraître bizarre au départ, mais qu'elle est liée aussi à des intérêts financiers. Il explique aussi que c'est en gros qu'au début des années 80 que les médias vont être complètement intégrés à la gestion de ces zones-là, quoi. Il explique il y avait déjà des émeutes et tout ça, enfin des trucs qui commençaient à faire du bruit dans les années 70, mais à partir des années 80, en fait, ils se sont saisis ils ont pris comme prétexte, en fait, l'histoire du rodéo, des rodéos de voitures aux Minguettes. Je crois que c'est les Minguettes, si je me trompe pas, c'est à Lyon. Et des grèves de travailleurs arabes pour en fait fabriquer un truc, c'est le problème d'intégration des immigrés. En fait, ça leur servait à criminaliser, quoi, les révoltes populaires en disant mais voilà, ces gens-là, en fait, leur problème c'est qu'ils n'arrivent pas à intégrer la culture française. Voilà, donc ça permet aussi, voilà, ça leur permettait de masquer tous les, voilà, je l'ai déjà dit, quoi, l'exploitation. au niveau du boulot, au niveau des conditions de logement, au niveau de l'école, au niveau de tous ces trucs-là, quoi, qui, contre lesquels eux, ils manifestaient en réalité.
Laborieuse classe dangereuse, on se recède, on refuse nos destinées. Classe laborieuse, classe dangereuse, une grosse bagarre pour pas être sous-estimé. Classe laborieuse, classe dangereuse, on fout le bazar, chez nous ça reste inné. Classe laborieuse, classe dangereuse, on prend les armes comme moyen de s'exprimer.
Dans les années 30, que le patronat français se réorganise à la fois contre la menace communiste qui émerge en 1917 en Russie et aussi qui fait face à une des premières grosses crises de suraccumulation du capitalisme en 1929, quoi. La bourse s'effondre, tout ça, le patronat se réorganise et décide d'avoir des nouvelles sources de profit en investissant à mort dans le marché militaire. Et de fil en aiguille, en fait, puisque là, c'est pas à proprement parler le marché de l'armement, quoi, qui est utilisé par la police, en tout cas, enfin, c'est un dérivé, mais pas tout à fait, quoi. C'est vraiment apparemment dans les années 60 que ce qu'il appelle le marché de la coercition, tout le marché du matériel, des techniques de police, quoi, c'est à partir du moment là où ça explose. Et par exemple, il donne un exemple, c'est vraiment dans l'après 68. Dans les rapports, quoi, qui sont faits, dans les retours d'expérience qui sont faits, quoi, de la gestion, des émeutes et des manifestations, on dit, il y a un gros problème de mobilité dans la police, de mobilité, quoi, à ce moment-là. Et ça va, en fait, à partir de ces rapports-là, ça va ouvrir tout un marché, quoi, pour justement, par exemple, les véhicules policiers, quoi. Les canons à eau, les transports de troupes, des boucliers amovibles sur les camions, les unités motocyclistes, quoi, qui sont connues pour avoir tué Malik Houssekine et tout ça, enfin, qui ont disparu après. Justement, pour générer ce marché-là, il faut créer aussi des menaces intérieures, quoi, la figure d'ennemis intérieurs. Donc ça c'est créé par les rapports, quoi. Il y a des gens, dans un de ses autres bouquins qui s'appelle « Les marchands de peur », il analyse vachement ça avec le marché de la vidéosurveillance, quoi, avec des mecs comme Alain Bauer, quoi, que vous avez forcément vu à la télé, qui sont à la fois experts, qui passent sur tous les plateaux télé pour dire « Oulala, il y a de plus en plus de violence, de plus en plus de délinquance, il faut de plus en plus de contrôle, de vidéosurveillance. » Et bizarrement, ce même Alain Bauer, qui est expert, qui fait des rapports ministériels et tout ça, il a une entreprise qui s'appelle AB Associates, autant que je me rappelle, quoi, et qui vend, quoi. Donc il crée à la fois le besoin et ensuite il vend tout son petit business et il s'en met plein les fouilles, quoi. Donc ce système-là, en fait, il marche pour la vidéosurveillance, mais évidemment c'est pas les premiers qui ont inventé ça, quoi. Il marche pour tout le matériel, pour l'exportation des techniques, la gestion du personnel policier, tout ça, quoi. Et évidemment, bon, là c'est juste des exemples, un petit aparté, mais il y a plein de lois, par exemple dans les années 80, qui ont ouvert ce marché-là, quoi. Par exemple, il y a une loi du 12 juillet 83 qui autorise le port d'armes à feu en dehors de la police nationale pour les convoyeurs de fonds. Voilà, ça c'est qu'un petit exemple, quoi, mais c'est comme ça que tu ouvres des marchés et que tu permets aux industriels de s'en mettre plein les fouilles. À partir de 86, il y a tout un processus de dénationalisation des industries publiques de l'armement. Et par exemple, entre 81 et 95, le nombre d'entreprises de sécurité, il va être multiplié par 4. Donc il y a vraiment des mecs qui s'en mettent plein les fouilles, quoi. Et évidemment, quand on dit il y a des mecs qui s'en mettent plein les fouilles, c'est les industriels, mais faut bien se dire que quand tu ouvres des marchés comme ça, quand tu es politique, que tu diriges et que tu permets l'ouverture de ce type de marché, eh ben forcément, t'es rétribué de différentes manières. Et la première, c'est l'argent, quoi. Il prend l'exemple du flashball, donc ce qu'il appelle les lanceurs de balles non perforantes. Et en fait, il regarde comment ça s'est développé. Donc, par exemple, il voit qu'au départ, ça a été utilisé, quoi, dans la bande de Gaza, quoi, par l'armée israélienne, ou je crois que c'est en Ulster, par l'armée anglaise, et donc c'est du matériel qui est directement militaire et qui était utilisé en gros pour réduire le risque d'insurrection, quoi. Apparemment, l'utilisation de l'arme lourde contre les populations, ça provoque plus d'émeutes et de bordel à gérer pour eux. En France, bon, évidemment, c'est une entreprise là, qui s'appelle Vernet Caron, qui est spécialisée dans les fusils de chasse, quoi. C'est le plus ancien et le premier producteur de fusils de chasse en France. Donc c'est eux qui développent ça. Au départ, c'est pour, pour pouvoir stopper du gibier en pleine course. Quoi. Donc c'est utilisé pour ça au départ. Donc ils donnent ça d'abord en 95 au RAID et au GIGN. Et puis ensuite à la BAC et aux polices de proximité à partir de 98, quoi, sur un modèle plus compact. Quoi. Et évidemment, c'est toujours des gros marchés, quoi, qui se comptent en millions d'euros. Ouais, pareil, ça c'est des détails qui n'en sont pas. Bon, et donc évidemment, l'utilisation de tous ces flashballs, ça leur permet en fait de rendre les violences plus. En tout cas, de leur point de vue, plus acceptables. Et il y a de plus en plus de gens qui sont blessés, quoi. Mâchoires fracturées, éborgnées. Il n'y a pas que les flashballs, quoi, qui blessent, mais ça en partie. Et évidemment, à chaque fois, c'est impunité policière, quoi. C'est très très rare les gens qui sont, enfin les flics qui sont condamnés pour ce genre de choses-là. L'entreprise même qui produit les flashballs explique qu'il y a une précision qui est de l'ordre de 60 cm. Donc en même temps, t'as le ministère de l'Intérieur qui, quand il y a une révolte ou quoi par rapport à l'utilisation des flashballs, lance des directives et médiatiquement explique qu'il fait passer le message aux troupes de ne surtout pas tirer dans la tête et dans le triangle génital. Mais en même temps, celui qui construit les flashballs dit que c'est pas précis à mieux que 60 cm. Donc en gros, ces mecs-là, ça veut juste dire qu'ils sont couverts administrativement. Ils peuvent tirer dans la tête puisqu'ils ont visé le nombril, mais 60 cm plus haut, il y avait la tête. Et donc celui qui construit les flashballs peut attester et tout le monde repart avec un non-lieu. Donc voilà. Après, il y a toute l'histoire des tasers, des drones. C'est un marché monstrueux, quoi, notamment avec un truc qui développe un peu sur l'immigration clandestine. Et là, tout ce qui est technique de fichage, de contrôle, de surveillance des frontières, tout ce qui est drones, navires, hélicos, infrastructures électroniques, traçage biométrique, tout ça, c'est au niveau de l'Europe, c'est des dizaines de millions d'euros, quoi. C'est juste délirant, quoi. La France est reconnue pour son excellence entre guillemets, évidemment, dans le maintien de l'ordre. C'est-à-dire que généralement, il y a assez peu de morts. Voilà, même s'il y a plein de blessés, il y a assez peu de morts. Et que dès qu'un État veut se présenter comme démocratique, c'est quand même plutôt intéressant, quoi. On a d'abord exporté les techniques de contre-insurrection un peu partout dans le monde. Notamment en Amérique du Sud, pour savoir comment torturer, comment tuer les gens, comment faire des rafles, faire disparaître les opposants.
Toutes ces techniques étaient inspirées de la guerre d'Algérie.
Complètement, ouais, tout à fait. Et là, maintenant, en fait, on exporte du maintien de l'ordre, quoi. Donc c'est une bonne, une gentille petite tradition française, quoi, qui permet aux industriels de s'en mettre plein les fouilles.
Et de contrôler la main-d'œuvre.
Et évidemment, de contrôler la main-d'œuvre.
Cette notion n'existe plus quand ils passent l'uniforme. Préférons au fond la forme, peur du hors norme. Pire encore, si dans leur manuel ta couleur n'est pas conforme. Véritable camp, camp organisé, hiérarchisé, protégé sous la tutelle des hautes autorités. Port d'armes autorisées malgré les valeurs énoncées. Comment peut-on prétendre défendre l'état quand on est soi-même en état d'ébriété avancée, souvent mentalement retardé. Le portrait type, le prototype du pauvre type. Voilà pourquoi dans l'excès le zèle ils excellent. Voilà pourquoi les insultes de plus qu'on passe les hirondelles. Pour notre part ce ne sera pas, mais un spécial nique ta mère de la part de la mère patrie du fils.
Police, machine matrice, desserve les mandats. Pour la machine sur laquelle je tisse, les mandats par la justice sur laquelle je pisse.
Aucune représentative de l'entière populace. Que dois-je attendre dans les flics qui pour moi ne sont signe que dans merde. Regarde, je passe à côté de tranches de con, devient nerveux.
Oh, contrôle de police, monsieur.
Systématique est la façon dont l'histoire se complique. Pas de bon, mes poches ne me pressent sans les balaches. Ne m'accordant aucun reproche à part le fait de passer proche. Portant atteinte à leur gommage.
Traquer les keufs dans les couloirs du métro. Tels sont les rêves que fait la nuit, Joe idiot. Donne-moi les balles pour la police municipale.
Encore une affaire étouffée, un dossier classé rangé. On va vendre un tiroir dans un placard, ils vont l'arranger. Car l'ordre vient d'en haut, pourri à tous les niveaux. Ça la fout mal, un diplomate qui business la pedo. Alors on enterre, on oublie, faux témoignages à l'appui. Pendant ce temps, des jeunes béton pour un bloc de Toshi. Malheureusement, j'entends dans l'assistance.
Écoutez, moi j'ai compris.
Plusieurs sorties, la police, la justice, tous des fils corrompus dans l'abus, ils puent. Je préfère faire confiance au moins de ma vie. Pas de temps à perdre en parole inutile. Voilà le deal, et du coup, les forces de l'ordre. Pour un peu moins de désordre.
Police, machine matrice, desserve les mandats. Police, par la justice, machine sur laquelle je pisse.
Les mandats par la justice sur laquelle je pisse.
Dieu du 93 à Saint-Denis, Chicago, bis.
Pas des récidivistes, mais pas très révis.
Je t'envoie la puissance, conservant mon avance. Tout en transcendance, un à un, major de tous les flics de France. Mercenaires, fonctionnaires, au sein d'une milice prolétaire.
Et ouais, vous êtes toujours sur NDChaîne 88.4 Radio Galère. Et du coup, bah, je rappelle que vous pouvez trouver ce montage, comme d'ailleurs pas mal d'autres, y compris qu'on va vous passer ce soir sur le site de NDChaîne. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à écouter, si vous ne l'avez pas fait il y a 3 semaines, une émission qui s'appelle Surveiller les flics, où on entend notamment l'interview d'une personne. Aux États-Unis, qui participent à un groupe de copwatcheros, c'est-à-dire des personnes qui donc s'organisent dans les quartiers pour surveiller les agissements de la police. Et à ce propos, on va faire un petit point sur l'actualité récente et déjà revenir sur ce qui est un peu daté dans ce qu'on vient d'entendre, puisque évidemment le nombre de forces de l'ordre, mais aussi leurs équipements, et leurs fichiers et tous les dispositifs légaux ne cessent d'augmenter. Et donc récemment, on a annoncé plusieurs choses, alors notamment la création d'un nouveau fichier qui est un fichier qui s'appelle le PNR et qui va recenser tous les passagers qui prennent l'avion en Europe et qui sera commun avec les États-Unis d'Amérique, les USA. Il y a aussi des renforts, donc on a été annoncé dans les forces de l'ordre, mais aussi chez les surveillants pénitentiaires. Et ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que les policiers ont donc désormais le droit de garder leurs armes en dehors de leurs heures de travail, mais aussi qu'ils ont à présent les mêmes droits que les gendarmes en matière de tir, ce qui ne les empêchait pas évidemment d'assassiner avant. Mais désormais, donc, ils peuvent tirer sans être en légitime défense. Alors, ce qu'ils faisaient déjà, certes, mais qui leur est donc totalement officiellement permis à présent. Et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'évidemment, cet état d'urgence, il sert de prétexte à l'intérieur des prisons pour tout un tas de mesures, alors qui, pour la plupart, étaient déjà là, mais qui sont appliquées avec beaucoup plus de zèle, notamment en ce qui concerne l'accès aux parloirs, ou encore l'accès au téléphone portable, qui est donc interdit, mais désormais, ils ont des brouilleurs d'ondes, et ils généralisent des fouilles dans les cellules pour s'assurer que les prisonniers ne puissent plus communiquer avec leurs familles ou leurs enfants. Et voilà, du coup, ce qu'il faut aussi retenir sur cette histoire d'état d'urgence, alors je ne vais pas rentrer dans les détails légaux, mais vous pouvez trouver sur Internet à la fois qu'est-ce que c'est que cette loi, mais aussi son histoire, puisque là encore, c'est lié à l'histoire de la France, et notamment à son passé colonial, et surtout à la guerre d'Algérie. Voilà, on se souvient d'une date, surtout le 17 octobre 61, où des gens qui justement ont bravé le couvre-feu instauré par l'état d'urgence ont été réprimés dans le sang, noyés dans la Seine, plusieurs centaines de personnes d'Algériens qui bravaient donc ce couvre-feu qui leur était imposé. Voilà, pour ce qui est de l'état d'urgence, c'est aussi l'occasion donc, pour les policiers de procéder à des perquisitions, et ce sans besoin de recourir à la justice et d'avoir l'accord de l'autorité judiciaire pour le faire. Donc ce qu'on avait, les perquisitions administratives, se sont multipliées. Au jour d'aujourd'hui, il y en a eu plus de 2029 depuis donc, le 13 novembre. Et alors sur ces perquisitions qui n'ont pour la plupart pas donné grand-chose, il y a eu un certain nombre de violences avérées, de racisme aussi de la part des policiers. Il y a un certain nombre de témoignages qui tournent sur Internet. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, faut savoir que des fois sur des familles, les forces de l'ordre ont tiré, ou encore se sont permis des humiliations, ou de chercher la petite bête sur des livres qui traitent de l'islam, ce genre de choses, ce genre d'amalgame. Voilà, donc 2029 perquisitions, il y a aussi des fermetures administratives qui sont prononcées, notamment pour certaines associations, pour des lieux de prière aussi, et parmi les associations, il y a une association qui est embêtée, qui est une association de soutien aux prisonniers musulmans, qui donc se voit reprocher de faire du soutien matériel à des prisonniers, ce qui pourrait donc eh bien, entraîner pas mal de choses si ça se confirmait pour toutes les personnes qui essayent d'être solidaires avec l'intérieur. En tout cas, c'est le cas de cette association et donc d'une des personnes qui se retrouve aujourd'hui assignée à résidence pour donc avoir été faire du soutien, envoyer des mandats notamment à des prisonniers. Et voilà, donc il faut savoir qu'il y a donc également un grand nombre de ces assignations à résidence qui ont été prononcées dans le cadre de l'état d'urgence. On en est à plus de 300 aujourd'hui. Parmi ces plus de 300, voilà, comme je l'ai dit, beaucoup d'amalgames et de gens qui n'ont absolument rien à voir avec les actes terroristes et qui même étaient parmi les premiers à les dénoncer pour certains et à lutter contre les groupes qui propagent l'idéologie takfiriste. Voilà, il y a aussi 26 de ces assignés à résidence qui le sont dans un autre cadre, qui est celui de la contestation de la COP21 qui est actuellement en cours. Donc voilà, c'est seulement 26 parmi plus de 2000, donc je le répète. Mais néanmoins, on va donc relayer le témoignage d'une de ces 26 personnes qui nous a parlé. Il faut savoir que les gens qui sont assignés à résidence dans le cadre de la COP21 le sont uniquement pour la durée de la COP21, alors que les autres assignés à résidence dans le cadre de l'état d'urgence le sont jusqu'à la fin de l'état d'urgence, qui est donc de 3 mois jusqu'au mois de mars. Donc, et je rappelle que le ministère de l'Intérieur a déjà annoncé la probabilité qu'il soit étendu au-delà de cette période de 3 mois. Et donc c'est parti avec le témoignage.
Et du coup, ce petit témoignage d'une personne assignée à résidence en Ariège. Le 26 novembre à 17h30, les 3 gendarmes de mon patelin sont venus chez moi pour me signifier mon assignation à résidence. On m'a laissé un papier signé du ministre de l'Intérieur. Le texte légal, invoqué le plus ancien, à 10 jours, autant dire que c'est du tout frais. Donc, il faut, ouvrez les guillemets, assurer la sécurité de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, dite COP21. Et, étant donné la gravité de la menace terroriste, des mesures particulières s'imposent. Et voilà. Ce sera la seule justification. Il ne faudrait tout de même pas que des écologistes fous et sanguinaires n'en viennent à détourner les forces de sécurité qui sont tant et tant occupées à lutter contre la menace terroriste. C'est-à-dire, en réalité, à perquisitionner n'importe où et à signer n'importe qui à résidence. Bon, passons sur les détails. En tout cas, je dois pointer 3 fois par jour à 18 km de mon domicile jusqu'au 12 décembre inclus, soit 1728 km. Bonjour, le bilan carbone. Le reste du temps, je ne peux pas quitter mon village et mon domicile de 20h à 6h. Il faut encore montrer que moi, j'en suis un, d'écologiste fou et sanguinaire. Pas de problème. Allez-y, ouvrez les guillemets. Considérant que M. X envisage de rejoindre la région parisienne pendant le déroulement de la COP21, alors ça, c'est tout de même quelque chose. Envisage. Et c'est tout. Pas de preuves, pas d'indices, rien. Puis vient l'énumération de quelques anciens délits mineurs déjà jugés, et après quoi, on évoque mon milieu, la mouvance contestataire. Sans bien sûr oublier que je fais partie d'un groupe d'individus. Il faut dire que l'assignation à résidence et le contrôle judiciaire 3 fois par jour, c'est une peine. Ce n'est pas une mesure préventive, c'est une mesure punitive. Ça s'apparente à une peine d'enfermement. En fait, c'est à peu près comme le port d'un bracelet électronique.
Cette peine est prononcée sans instruction, sans jugement, sans preuve et même sans infraction. On punit un profil, en l'occurrence le mien. C'est-à-dire qu'on ne me sanctionne pas pour quelque chose que j'aurais fait, mais pour ce que je suis, ou ce que je suis même supposé être. C'est comme toujours. Ces faits mentionnés, ils ont déjà été jugés. On me condamne donc une deuxième fois. Et la prochaine fois, sur le papier, y aura-t-il décrit en plus « L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence du temps au temps ». En somme, mon cas s'aggrave tout seul. Un recours au tribunal administratif est possible. La réponse arrive en moyenne, selon mon avocat, après 1 an et demi. Donc, pour les grossières erreurs de procédure de mon assignation à résidence, comme par exemple la contradiction entre l'interdiction de quitter ma commune et l'obligation d'aller pointer dans une autre commune, je ne peux me plaindre à personne. Il s'agit d'une sanction sans appel. Entendons-nous bien. Il ne s'agit pas ici de clamer mon innocence. On le sait. Que définir des innocents justifie la répression des autres, les coupables. Il n'y a pas de coupables, ni d'innocents. Et ça n'est pas une parole creuse. Quand je pointe à la gendarmerie, il y a d'autres personnes qui sont là aussi, qui ont des barbes, des fichus sur la tête. Je me fous, à ce moment précis, de leur profil. Je ne peux voir que la brève condition commune qui nous est faite, à savoir que nous sommes réprimés. La répression ne doit pas nous diviser en coupables et en innocents, mais au contraire, être l'occasion de témoigner une solidarité minimale, que ce soit avec les militants écologistes ou avec les milliers de musulmans qui subissent un enfer permanent. Si mon cas semble ubuesque, ou arbitraire, ou fou, alors que dire des centaines de personnes arrêtées, humiliées, assignées, perquisitionnés, enfermés, licenciés depuis le début de l'état d'urgence. Et encore, pour moi, cela ne devrait durer que 16 jours. Mais pour d'autres, l'assignation est sans limite de temps.
La première précision sous l'état d'urgence a été d'interdire les manifestations revendicatives. Mais on maintient les matchs de foot, les centres commerciaux restent ouverts et de très nombreux chefs d'État vont se pointer au Bourget. Il s'agit de montrer au monde que tout va bien ici, que la conférence sur le climat va tout régler, le sort du monde et le reste d'ailleurs, et qu'il ne va rien se passer. Il s'agit d'un glissement. Pour protéger les libertés, on les abolit. Le pays des droits de l'homme décide de déroger à la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Et ce glissement fait passer du supposé état de droit à sa version totalitaire et arbitraire, c'est-à-dire dépourvu de droits. Il n'y a aucune exagération. En tout cas, tout ce qui est possible doit nécessairement être essayé. C'est le propre du fonctionnement administratif. Ceci ne veut pas dire qu'il y a des stratégies très élaborées ou précises, etc., de la part de l'État. C'est même plutôt le contraire qui est vraisemblable.
En tout état de cause, cette logique extensive de la répression est connue. Qu'on se souvienne qu'à l'origine, les prélèvements d'ADN étaient prévus pour les seuls pédophiles et qu'à présent, ils s'appliquent à tout délit. La répression ne peut rester spécifique. Elle a toujours vocation à être générale. Qu'on se souvienne que le plan Vigipirate était prévu pour durer quelques mois et qu'il n'a jamais cessé. La répression ne peut rester temporaire. Elle a toujours vocation à être permanente. Il ne resterait plus qu'à dire que depuis que des centaines de musulmans ont été arrêtés, il n'y a pas eu d'attentat, ce qui prouve bien qu'il s'agit d'une mesure efficace.
Ne nous habituons pas à la répression. Manifestons. Soyons solidaires.
Abat l'état d'urgence. Et c'est signé par un assigné au Mas d'Asile, donc en Ariège, le 29 novembre 2015.
Et puisqu'il terminait son communiqué sur une invitation à la manifestation, nous vous rappelons quelques conseils pour les suivantes.
Quelques conseils juridiques en vue des manifestations interdites ou pas.
En cas d'interpellation et de violence policière, témoin.
Si vous êtes témoin d'une arrestation, il faut le gueuler qu'il y a une arrestation qui est en train de se faire juste à côté. Et comme ça, les gens qui sont autour, eh ben, ils peuvent faire bloc face aux 2-3 flics qui essayent d'arrêter la personne et ainsi empêcher l'arrestation. Et plein de fois, le simple fait de faire bloc face au keuf, ça a permis à ce que la personne elle, se fasse pas serrer. Si vous êtes témoin ou proche d'une personne interpellée, rapprochez-vous des organisateurs de la manif ou de l'équipe légale, là, s'il y en a une, pour signaler l'arrestation en décrivant la personne arrêtée, l'heure et le lieu de l'arrestation. Si vous êtes témoin de violences policières, c'est pas mal de prendre des images, si c'est possible, de noter les lieux et heures des événements, puis les transmettre aux organisateurs. Ils peuvent alimenter les procédures juridiques à l'initiative des manifestants ou les plaintes émanant de la police.
Victime.
Si vous êtes victime d'une arrestation, il y a quand même souvent un risque que les flics portent plainte pour rébellion si vous vous débattez ou qu'ils portent plainte pour outrage si vous vous énervez. Souvent, en règle générale, le délit d'outrage et rébellion, les flics s'en servent soit pour masquer leur propre violence, soit pour justifier une arrestation qui n'a pas lieu d'être. Lorsque vous êtes interpellé, vous pouvez faire l'objet d'un contrôle d'identité, d'une vérification d'identité qui durera au maximum 4 heures. Ça, c'est le cadre légal. Au-delà, on doit vous notifier une garde à vue. Et celle-ci, elle commence dès l'heure de votre interpellation et dure 24 heures. Et elle est renouvelable à 48 heures. Lorsqu'on vous interroge, c'est quand même mieux de ne rien dire ou de répondre par « je n'ai rien à déclarer ». Il faut savoir que c'est votre droit et qu'on ne peut pas vous pénaliser. C'est au juge qui va décider de votre culpabilité ou pas, et c'est pas les flics. Et tout ce que vous allez dire aux policiers, ça pourra être utilisé contre vous. Vous pouvez refuser le prélèvement de l'ADN, mais vous risquez aussi une condamnation. Lorsque la garde à vue est prolongée à 48 heures, il s'en suivra une convocation remise par la police pour un procès ultérieur, une comparution devant le procureur de la République en vue d'une convocation ultérieure à un procès, vous pouvez être retenu jusqu'à 20 heures au dépôt en attente de cette comparution, ou bien une comparution immédiate devant le juge qui est suivie d'une condamnation dans la foulée.
Note. Alors, il est conseillé de refuser la comparution immédiate parce que c'est souvent une justice expéditive avec des condamnations plus lourdes. En cas de refus de comparution, il peut arriver que le juge, s'il estime que vous êtes susceptible de ne pas vous représenter à la prochaine appel, vous place en détention préventive. Mais si vous pouvez justifier d'un domicile et d'un emploi fixe, il y a peu de chances que ça se produise. Si vous refusez la comparution immédiate, vous aurez plusieurs semaines, voire des mois, pour préparer votre défense, voilà, ce qui est quand même mieux.
En garde à vue, vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en connaissez pas, et ben, les flics vous colleront ce qu'on appelle un commis d'office, c'est-à-dire les avocats qui sont de permanence ce jour-là.
Note, il y a un certain nombre d'avocats commis d'office qui seront de mauvais conseils et qui vous conseilleront d'accepter la comparution immédiate, voire même d'avouer. Voilà, faut éviter de les écouter aveuglément. Ils sont souvent inexpérimentés en matière pénale ou voire non sympathisants de votre cause. Voilà, donc évitez d'écouter son avocat commis d'office s'il vous dit d'accepter une comparution immédiate, par exemple.
Dans la manifestation, gaz.
Les gaz agissent plus facilement avec l'effort et la panique. Donc restez calme, essayez de ne pas courir et courez que s'il y a une charge policière à plus ou moins 50 mètres de vous, à vous d'estimer. Pour vous protéger des gaz, couvrez-vous la bouche avec un foulard imbibé d'eau citronnée, par exemple. Mais surtout, respirez calmement et prévoyez aussi, si possible, du liquide physiologique pour vous laver les yeux. Ne ramassez jamais les palets de gaz à main nue car ils peuvent notamment occasionner des brûlures sévères. Mais en plus aussi, il peut se trouver que ce soit une grenade et à ce moment, elle peut être encore explosive. Lavez-vous au savon dès que vous rentrez chez vous et mettez tous vos vêtements au lavage car les gaz ont une persistance de 45 jours et sont résistants à l'eau toute seule. Il faut donc mettre de la lessive.
Tire.
En cas d'usage des flashballs, essayez de se tenir hors des lignes de vue, derrière une voiture, un arbre bien sûr, éventuellement derrière une barricade ou même une banderole de protection. Savoir que leur portée des flashballs peut aller jusqu'à 150 mètres et est très dangereux encore à 30 mètres. Voilà.
Images et caméras.
De nombreuses caméras de vidéosurveillance ont été déployées dans tout l'espace public, alors prenez garde à ne rien commettre de répréhensible qui puisse être établi par cette même vidéosurveillance. Quant à l'implantation donc de ces caméras dans plusieurs villes françaises, elles ont été cartographiées sur le site sous-surveillance.net. Aussi, ne prenez pas d'images qui pourraient servir à établir votre propre participation à des actes répréhensibles. En cas d'arrestation, à savoir que les cartes SIM sont facilement analysées par la police. Ne publiez pas d'images qui puissent permettre l'identification des auteurs d'actes répréhensibles. Quoi que vous en pensez, les peines qui sont encourues peuvent se révéler très très lourdes. Pensez à effacer les métadonnées incluses dans vos photos avant de les publier en ligne. Elles contiennent beaucoup d'informations sur le lieu, l'heure, le type d'appareil employé. Éventuellement, ne mettez aucune image en ligne.
Communication.
Ne communiquez pas d'informations, ça peut paraître un peu bête, mais effectivement, ne parlez pas dans votre téléphone de choses qui pourraient vous être ensuite reprochées, que ce soit dans des appels ou dans des SMS. Éteignez votre téléphone si vous pensez risquer une interpellation et retirez la carte SIM pour éviter sa saisie. Ne dites rien pendant la manifestation qui puisse nuire à un tiers ou à vous-même. Il y a toujours un certain nombre de policiers en civil qui sont susceptibles d'être présents et de vous entendre. Ne colportez pas des informations non vérifiées. Les rumeurs peuvent occasionner des mouvements de panique et des conséquences graves.
Vêtements et protection.
La dissimulation du visage est condamnable par la loi. Alors débarrassez-vous de tout ce qui peut vous incriminer si vous risquez une fouille ou une interpellation. Incriminée, c'est-à-dire une cagoule, un masque, etc. Le port de protections spécifiques type gilet pare-balles, masque de ski, bouclier, etc. peuvent vous valoir d'être incriminé d'attroupement en vue d'un mouvement armé. Alors attention de ne pas les conserver et à vous en débarrasser, si possible, dans une bouche d'égout ou un autre endroit inaccessible.
Fumigène.
L'utilisation ou le port de feux de Bengale et de fumigène peut vouloir d'être incriminé pour port d'explosifs. Alors attention à ne pas les conserver sur vous en cas de barrage et de fouille policière. Et aussi, quand vous en faites l'usage, utilisez des gants, c'est toujours mieux pour votre protection, mais aussi pour ne pas laisser vos empreintes ou ADN et conduire à des condamnations ultérieures. Bonne émeute.
Vous êtes toujours à l'écoute de ND Chaîne sur Radio Galère 88.4 et donc bah, pour continuer un peu cet état des lieux de l'État en ce moment, et on va parler de la manif qui a eu lieu donc déjà dans un premier temps hier à Paris. C'était donc hier dimanche 29 novembre en début d'après-midi, il y a 4000 à 5000 personnes qui s'étaient rassemblées donc par rapport à la COP21, alors certains pour faire une chaîne humaine, d'autres pour aussi braver l'état d'urgence. Toujours est-il que donc ces personnes au profil divers, dira-t-on, étaient bloquées de toutes parts par la police. Il y a une manifestation qui est partie sur l'avenue de la République et là les flics ont bloqué la manif et ont gazé, il y a eu des affrontements. Et ensuite la police est revenue sur la place de la République où donc là les gens qui étaient juste rassemblés, qui n'ont pas participé à cette tentatives de manifestation, se sont fait encercler. Ils sont restés pendant 4 heures dans la nasse policière et les flics ont choisi, ont trié en fait les manifestants pour en sélectionner quelques-uns qui ont donc été interpellés. Il y a donc 341 interpellations et 316 gardes à vue. Sur ces 316 personnes, 308 sont désormais sorties de garde à vue. Mais pourrait être poursuivi par la suite pour participation à une manifestation interdite. Et il y reste donc encore 9 gardes à vue qui donc ont été prolongés. Et on ne connaît pas pour le moment les chefs d'inculpation. Et donc, bah, en réaction à ça, notamment, il y avait un appel à rassemblement tout à l'heure à Marseille.
Ouais, du coup, donc il y avait l'appel était à 18h30 au réformé, au mobile. Et donc on est resté un peu une demi-heure là-bas, il y avait un peu des chansons, tout ça. Et on a commencé à descendre la Canebière, du coup on a été bloqué tout de suite, enfin genre on a fait, je sais pas, 50 mètres jusqu'à la rue Sénèque, quoi. Et là on est resté coincé un peu, du coup on a décidé de remonter, et voilà, on a réussi à se déplacer plus ou moins jusqu'à, enfin en allant vers la préfecture. À la préfecture on a été rebloqué, on est remonté sur la rue de Rome et on s'est dispersé. Voilà, donc ici, bah, à Marseille, il n'y a pas eu d'interpellation, en tout cas, pas que j'ai vu. C'était plutôt tranquillou, quoi. Voilà. Okay. Pas de...
pas grand chose. Il y avait un peu des slogans.
C'était ouais, bah, il y a pas l'état policier, bah, l'état d'exception, état policier, vous ne nous empêcherez pas de manifester. Enfin, ouais. Un peu des reprises des slogans qui ont été donnés hier à Paris. Bah, de fait, on n'était pas très organisé, quoi. Et du coup, on n'avait notamment pas de banderole, ce qui était un peu dommage, parce que ça rendait, enfin, ni de banderole, ni vraiment de tract à distribuer. Du coup, c'était pas hyper visible comme manif. Okay. Voilà, voilà. Sinon, c'était marrant, parce que sur le tramway, il y avait marqué que le tramway était perturbé suite à des manifestations anarchiques.
D'accord.
On imagine anarchique, mais... C'est très sympa pour les manifestants.
Et du coup, bah, on va déjà apporter notre solidarité donc aux 9 placés, placés en garde à vue, mais aussi donc à ces plus de 2029 personnes qui sont donc assignées à résidence, qui ont été perquisitionnées, pardon, et plus de 300 personnes qui sont assignées à résidence. Et voilà, et toutes les personnes qui sont confrontées à la répression. Et on voulait passer un petit rappel en ce qui concerne le fichage ADN, puisque c'est quelque chose auquel toute personne qui donc
se ferait arrêter pourrait être confrontée, voilà, effectivement.
Pourrait y être confrontée, du coup, un petit montage de ND Chaîne sur le sujet.
Ne riez plus, vous êtes fiché. Ça ne dure que quelques secondes.
Ferme ta gueule et ouvre la bouche.
Un bâtonnet se glisse et frotte l'intérieur de la joue. Prélèvement réussi. Une banalité, pas si banale. Un boulet pour toute la vie. Inscription au fichier national FNAEG pour 40 ans, le recoupement avec les affaires en cours et à venir. Déjà 1 million prélevés, et ça augmente de façon inquiétante. Aujourd'hui, les flics essayent de prendre l'ADN de tous les gardes à vue sous n'importe quel prétexte. Mais il est possible de refuser. De refuser leur pression et leur intrusion dans nos corps. De refuser leur soi-disant preuve absolue et indiscutable. De refuser le fichage général qui fait de nous des objets, des statistiques et des numéros. De refuser cette prétendue protection qui n'est que contrôle médical et policier. Refuser, refuser, pour ne plus subir sans broncher. Si le code pénal prévoit de punir le refus et la récidive, n'oublions pas que ces refus entravent leurs avancées. Et ça, ça n'a pas de prix. Crachons notre haine, pas notre ADN.
Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais.
Voilà, vous êtes toujours sur ND Chaîne 88.4 et du coup, peut-être on va lancer un petit morceau de musique, si ça vous dit, avant de continuer cette émission. Une idée, je ne sais pas. on va écouter, une fois n'est pas coutume, un truc un peu à la mode, mais en même temps... c'est un morceau qui parle des traversées de frontières et donc c'est aussi un peu d'actualité puisqu'on ne saurait manquer d'apporter notre solidarité aussi à tous ceux qui essayent malgré tout de parvenir jusqu'en Europe même si, on le répète, les frontières sont fermées. Et donc c'est Mia et c'était pas celle-là que je voulais mettre mais c'est là.
Gangsters, bangers, we're putting them in a trance. Put them in a trance. Ooh. we're putting him in a trance. Warriors in a dance. What warriors in a dance? What warriors in a dance? Warriors in a dance. What warriors in a dance? What warriors in a dance? Gangsters, bangers, we're putting them in a trance. Put them in a trance. We're putting them in a trance.
Et voilà, toujours sur une des chaînes Radio Galère 88.4. Et pour continuer et clore cette émission, on avait envie de passer à un autre sujet pas tellement différent, puisque la violence de l'État n'a pas de frontières et que, évidemment, on est loin d'être les seuls ici en France à en subir les conséquences, et même peut-être on les subit en tout cas moins durement vu la gravité de ce qui se passe au Yémen, par exemple, ou en Syrie, évidemment, mais aussi dans bien d'autres endroits dans le monde. Et du coup, on avait envie de marquer une fois de plus notre opposition à la violence de l'État, mais aussi à la guerre telle qu'elle met énormément de gens en scène, mais surtout en scène sous forme de cadavres, j'ai envie de dire, elle les détruit. Cette guerre menée par les États et menée par les entreprises qui la financent et qui l'arment. Et du coup, voilà, on avait envie de finir cette émission avec un texte qui date un peu, qui est un texte de Jean Giono, mais qui est toujours aussi cruellement d'actualité. Et voilà, on espère que vous en saisirez la portée à la fin, puisque c'est aussi un appel à la révolte.
Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois 2 ou 3 jours sans y penser, et brusquement, je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis encore. Et j'ai peur. 20 ans ont passé. Et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. J'ai été soldat de 2e classe dans l'infanterie pendant 4 ans, dans des régiments de montagnards. Nous avons fait les Éparges, Verdun-Vaux, Noyon-Saint-Quentin, le Chemin des Dames, l'attaque de Pinon, Chevrillon, le Kemmel. La 6e compagnie a été remplie 100 fois et 100 fois d'hommes. La 6e compagnie était un petit récipient de la 27e division, comme un boisseau à blé. Quand le boisseau était vide d'hommes, enfin, quand il n'en restait plus que quelques-uns au fond, comme des grains collés dans les rainures, on le remplissait de nouveau, avec des hommes frais. On a ainsi rempli la 6e compagnie 100 fois et 100 fois. Et 100 fois on est allé la vider sous la meule. Nous sommes, de tout ça, les derniers vivants, V et moi. Je n'ai pas honte de moi. En 1913, j'ai refusé d'entrer dans la société de préparation militaire qui groupait tous mes camarades. En 1915, je suis parti sans croire à la patrie. J'ai eu tort. Non pas de ne pas croire, de partir. Je n'ai jamais été décoré, sauf par les Anglais, et pour un acte qui est exactement le contraire d'un acte de guerre. Donc, aucune action d'éclat. Je suis sûr de n'avoir tué personne. J'ai fait toutes les attaques sans fusil, ou bien avec un fusil inutilisable. Tous les survivants de la guerre savent combien il était facile, avec un peu de terre et d'urine, de rendre un lebel pareil à un bâton. Je n'ai pas honte, mais à bien considérer ce que je faisais, c'était une lâcheté. J'avais l'air d'accepter. Je n'avais pas le courage de dire « je ne pars pas à l'attaque ». Je n'ai pas eu le courage de déserter. Je n'ai qu'une seule excuse, c'est que j'étais jeune. J'ai été trompée par ma jeunesse et j'ai également été trompée par ceux qui savaient que j'étais jeune. Ils étaient très exactement renseignés. Ils savaient que j'avais 20 ans. C'était inscrit sur leur registre. C'étaient des hommes, eux, vieillis, connaissant la vie et les roublardises, et sachant parfaitement bien ce qu'il faut dire aux jeunes hommes de 20 ans pour leur faire accepter la saignée. Il y avait là des professeurs, tous les professeurs que j'avais eus depuis la classe de 6e, des magistrats de la République, des ministres, le président qui signa les affiches, enfin, tous ceux qui avaient un intérêt quelconque à se servir du sang des enfants de 20 ans. Il y avait aussi, je les oubliais mais ils sont très importants, les écrivains qui exaltaient l'héroïsme, l'égoïsme, la fierté, la dureté, l'honneur, le sport, l'orgueil. Ceux-là ont retardé mon humanité. Je leur en veux surtout parce qu'ils ont empêché que cette humanité soit en moi au moment précis où elle m'aurait permis d'accomplir des actes utiles. Enfin, ce qui est fait, et ce qui est à faire reste à faire. Il n'y a pas un seul moment de ma vie où je n'ai pensé à lutter contre la guerre depuis 1919. Je marchais avec un fusil fermé dans le bled de l'attaque. Je le regrette maintenant. Ce fusil, il aurait été bon de le garder fin prêt et astiqué, et la culasse coulant bien, et les cartouches bien graissées. Le garder avec moi et, comme on m'avait dit, m'en servir contre mes ennemis. Ce qui me dégoûte dans la guerre, c'est son imbécilité. J'aime la vie. Je n'aime même que la vie. C'est beaucoup, mais je comprends qu'on la sacrifie à une cause juste et belle. J'ai soigné des maladies contagieuses et mortelles sans jamais ménager mon don total. À la guerre, j'ai peur, j'ai toujours peur, je tremble, je fais dans ma culotte. Parce que c'est bête, parce que c'est inutile. Inutile pour moi, inutile pour le camarade qui est avec moi sur la ligne de tirailleurs, inutile pour le camarade en face, inutile pour le camarade qui est à côté du camarade en face dans la ligne de tirailleurs qui s'avance vers moi. Inutile pour le fantassin, pour le cavalier, pour l'artilleur, pour l'aviateur, pour le soldat, le sergent, le lieutenant, le capitaine, le commandant. Attention, j'allais dire le colonel. Oui, peut-être le colonel, mais arrêtons-nous. Inutile pour tous ceux qui sont sous la meule, pour la farine humaine. Utile pour qui alors? Depuis 1919, j'ai lutté patiemment, pied à pied, avec tout le monde, avec mes amis, avec mes ennemis, avec des amis de classe, mais faibles, avec des ennemis de classe, mais forts. Et à ce moment-là, je n'étais pas libre, j'étais employée de banque, c'est tout dire. Quand je parlais contre la guerre, j'avais rapidement raison. Les horreurs toutes fraîches me revenaient aux lèvres. Je faisais sentir l'odeur des morts, je faisais voir les ventres crevés. Je remplissais la chambre où je parlais de fantômes boueux aux yeux mangés par les oiseaux. Je faisais surgir des amis pourris, les miens et ceux des hommes qui m'écoutaient. Quand je disais « jamais plus », ils me répondaient tous « non, non, jamais plus ». Mais le lendemain, nous reprenions notre place dans le régiment civil bourgeois. Nous recommencions à créer du capital pour le capitaliste. Au bout de 2 ou 3 jours, l'indignation était tombée. D'abord, le travail avait fourni assez de dureté, de soucis et de mal, de choses mauvaises immédiates, pour que les malheurs passés soient effacés et les amis morts oubliés. Et surtout parce que le rythme du travail avait été depuis longtemps étudié pour nous endormir. Cet esprit d'esclavage se transmettait de génération en génération. La société, disait-il, n'est pas si mal faite que ça. Tu dis que nous nous sommes battus, non pas pour la patrie, comme on voulait nous le faire croire, et ça, nous le savons, là nous ne marchons pas, mais pour des mines, pour du phosphate, pour du pétrole. Je suis mineur. Eh bien quoi, tu es mineur? Si la mine ferme, qu'est-ce que je bouffe? Il y avait de petits paysans, propriétaires de 3 hectares, qui se croyaient visés quand je parlais des gros propriétaires terriens. Il y eut même un épicier qui défendit le pétrole, parce qu'il en vendait et qu'il en avait une provision de 5 barils dans son arrière-boutique. L'attachement instinctif au régime bourgeois les empêchait d'être logiques avec eux-mêmes. Dès qu'on entre en lutte contre la guerre, on entre en lutte contre le gouvernement. Je me disais, tu barreras dans l'histoire de France de ta fille tout ce qui est exaltation à la guerre. Mais il aurait fallu tout barrer, et comme j'avais malgré tout essayé, l'institutrice vint chez moi et me dit « Que voulez-vous, monsieur? Comment pouvons-nous faire ?» Celui qui est contre la guerre et par ce seul fait dans l'illégalité. L'État capitaliste considère la vie humaine comme la matière véritablement première de la production du capital. Il conserve cette matière tant qu'il est utile pour lui de la conserver. Il l'entretient, car elle est une matière et elle a besoin d'entretien. Et aussi pour la rendre plus malléable, il accepte qu'elle vive. Il a des maternités où l'on accouche les femmes avec autant de soins qu'on peut. Il a des écoles où les inspecteurs primaires viennent caresser les joues des enfants. Il a des stades où l'on fait du sport à 22 hommes et où l'on donne le spectacle à 40 000. Spectacle déjà de bataille, de lutte, de camp. Il a des casernes. La guerre n'est pas une catastrophe, c'est un moyen de gouvernement. Dans l'État capitaliste, ceux qui jouissent ne jouissent que de sang et d'or. Ce qu'il fait dire par ses lois, ses professeurs, ses poètes accrédités, c'est qu'il y a le devoir de se sacrifier. Il faut que moi, toi et les autres, nous nous sacrifions. À qui ? L'État capitaliste nous cache gentiment le chemin de l'abattoir. Vous vous sacrifiez à la patrie, on n'ose déjà plus guère le dire. Mais enfin, à votre prochain, à vos enfants, aux générations futures. Et ainsi de suite, de génération en génération. Qui donc mange les fruits de ce sacrifice à la fin ? Nous savons donc maintenant très nettement de quoi il s'agit. L'État capitaliste a besoin de la guerre. C'est un de ses outils. On ne peut tuer la guerre sans tuer l'État capitaliste. Je parle objectivement. Voilà un être organisé qui fonctionne. Il s'appelle État capitaliste comme il s'appellerait chien, chat ou chenille bifide. Il est là, étalé sur ma table, ventre ouvert. Je vois fonctionner son organisme. Dans cet être organisé, si j'enlève la guerre, je le désorganise si violemment que je le rends impropre à la vie, à sa vie, comme si j'enlevais le cœur au chien. Mon sacrifice ne sert à rien qu'à faire vivre l'État capitaliste. Je préfère vivre. Je ne veux pas me sacrifier. Je n'ai besoin du sacrifice de personne. On ne peut plus se promener sur le champ de bataille avec son fusil pareil à un bâton. Le dédain, l'acceptation du martyr, la non-résistance, rien de tout ça ne peut être maintenant efficace. Croyez-vous que l'État capitaliste va s'arracher le cœur de bon gré ? Il n'y a qu'un seul remède, notre force. Il n'y a qu'un seul moyen de l'utiliser, la révolte.
Ouais, bah c'était N des chaînes. La semaine prochaine, en attendant, on vous invite à vous renseigner sur les manifs, à pas hésiter à aller manifester. Ça peut bien se passer des fois.
Et puis peut-être aussi à, je sais pas, s'inspirer de ce qui se passe de l'autre côté des frontières de la France, à savoir au Royaume-Uni et en Espagne, où il y a eu ce samedi de très nombreuses manifestations qui ont rassemblé des milliers de personnes contre la guerre pour arrêter les bombardements. Et voilà, donc je pense que de toute façon, il y a des centaines, des milliers ou plus de raisons de manifester et de se révolter contre ce système qui nous montre sa violence au quotidien.
Ouais, ne serait-ce que de montrer qu'on n'a pas envie d'accepter que 317 interpellations dans une manifestation soient considérées comme normales. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les journaux, personne n'en a parlé. Personne n'a trouvé ça hallucinant en tout cas.
Ou alors pour dire que c'était les Black Blocs qui avaient détruit le monument mausolée hommage aux victimes des attentats. Alors qu'on a vu de très nombreuses images tourner sur les réseaux sociaux, notamment où on voit les forces de l'ordre piétiner allègrement
les fleurs et les bougies.
Voilà, les fameuses fleurs et les bougies, comme quoi finalement. Bon, ouais. Bref, toujours est-il que l'État nous piétine et qu'on ne se laissera pas piétiner, voilà. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.